Opération Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes le 2 novembre et cette journée, vous le savez, a une résonance toute particulière à RFI puisqu'il y a tout juste 5 ans, nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés à la sortie de Kidal dans le nord du Mali alors qu'ils préparaient une série de reportages. Et dans les semaines qui ont suivi, l'ONU a adopté une résolution décrétant le 2 novembre Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, une résolution qui appelle à aller jusqu'au bout des enquêtes car dans la majorité des cas, ces crimes restent impunis. Depuis le début de l'année, près de 60 journalistes ont été tués dans le monde, dans le cadre de leurs fonctions. L'occasion ce matin de vous donner la parole sur une thématique un peu plus large. Nous allons évidemment parler des conditions de travail des journalistes dans vos pays respectifs. Appelez-nous, dites-nous si leur sécurité vous semble garantie et nous lancerons le débat également sur la liberté de la presse. Est-elle respectée? Là aussi, on vous attend au standard 33 9 693 693 70 et vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. On en parlera donc dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité. On va justement commencer avec Modou qui nous a contacté de Dakar. Modou qui souhaite revenir sur l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Bonjour Modou.
Bonjour Juan et bonjour à tous les journalistes du monde entier.
Merci, nous vous écoutons.
Voilà. 5 ans après l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, l'enquête semble toujours au point mort. François Hollande avait pourtant promis aux familles des victimes que la déclassification des documents secret défense apporterait les réponses tant espérées. Or, jusqu'à maintenant, la réalité des circonstances de l'enlèvement et de l'assassinat des deux journalistes reste encore floue. Alors, où en est l'enquête?
Alors, où en est l'enquête? Vous parliez à l'instant de François Hollande, je précise qu'il était président de la République au moment des faits, il était d'ailleurs ce matin l'invité de RFI, il est revenu sur l'assassinat de Ghislaine et Claude, entretien évidemment à réécouter sur notre site RFI.fr. Bonjour Marie-Pierre Olfant.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. 5 ans après, les proches et les collègues de Ghislaine et Claude attendent toujours de connaître la vérité. Le dossier avance, la justice, l'enquête se poursuit, mais elle se poursuit lentement.
Oui, l'instruction est toujours en cours, hein, c'est important de le dire. Et la preuve, c'est tout simplement qu'il y a un mois, le 4 octobre, je crois, le juge entendait un nouveau témoin malien à Paris. Cette année aussi, ce qui est important de souligner, c'est que le juge Herbeau, le juge français chargé du dossier, s'est aussi rendu à Bamako. C'est le premier déplacement depuis 5 ans sur place du juge chargé de ce dossier, que ce soit celui-ci ou son prédécesseur Marc Trévidic. Cette visite importante a permis de nouer des contacts directs entre le juge Herbeau et le nouveau juge antiterroriste malien chargé du dossier. Pendant son séjour, le magistrat français a fait le tour des prisons pour trouver des suspects ou complices qu'il recherchait, en vain, sans succès donc. Mais il a laissé, et il a profité de sa visite, pour laisser à son homologue une liste de suspects afin d'être prévenu très vite si l'un d'eux venait à être arrêté. Grâce à ce déplacement, le magistrat a aussi pu obtenir des fadettes, c'est-à-dire les relevés des téléphones trouvés sur les lieux du drame. Il n'en a eu qu'une partie, l'autre se fait attendre, notamment celle de l'opérateur Malitel, mais les données recueillies, en tout cas à ce stade, n'ont pour l'heure, hélas, rien apporté de significatif.
Et le juge a aussi fait procéder à l'expertise de l'ordinateur de Ghislaine Dupont.
Oui, c'était aussi cette année, et cette analyse ne confirme pas l'intrusion informatique suspecte révélée par le reportage d'Envoyé spécial sur France 2 il y a 1 an et demi. Et surtout, cette analyse des données informatiques ne permet pas d'avancer sur le mobile de l'enlèvement de nos confrères. Alors certes, les commanditaires et les ravisseurs présumés sont connus aujourd'hui. Certains ont été tués, d'autres sont toujours vivants, mais faute d'état civil fiable, il n'y a toujours pas de mandat d'arrêt émis à notre connaissance. Et au final, les questions fondamentales demeurent.
Oui, des questions comme pourquoi ont-ils été enlevés? Un hélicoptère a-t-il décollé de Kidal pour suivre les ravisseurs dans leur fuite et a-t-il pu les faire paniquer? Y a-t-il, voilà, autre question qu'on peut se poser, y a-t-il un lien entre l'enlèvement de nos confrères et la libération 4 jours plus tôt des otages d'Arlit? Voilà autant de questions fondamentales qui demeurent encore aujourd'hui, 5 ans après. Vous aviez une dernière question, Modou?
Et bien sûr. En fait, pourquoi les autorités françaises tardent à éclairer la vérité sur cette affaire?
Alors, faut, Marie-Pierre Offon, peut-être faire la distinction entre deux choses, les autorités et la justice.
Oui, il y a l'État et la justice. Oui. Voilà, l'enquête est menée, elle, par des juges antiterroristes, par la justice française ici en France. Alors, est-ce que ces juges font bien leur travail? Je ne suis pas capable de vous répondre, évidemment. Ce que je peux rapporter uniquement, ce sont les propos des familles qui trouvent forcément que ces juges n'avancent pas assez vite et qu'ils ferment certaines portes trop vite aussi. Notamment, on peut citer cette porte du lien entre la libération des otages d'Arlit et l'enlèvement de nos confrères, 4 jours après, du lien potentiel. Hein. Le juge français n'a effectivement pas estimé pertinent sur ce sujet d'entendre les auteurs du reportage de France 2 que je citais, qui accréditait cette thèse, ni la quinzaine de personnes qui apparaissent dans cette enquête journalistique et que les avocats auraient souhaité voir interroger.
Ouais, les juges ont-ils tout de même les moyens de mener leur enquête?
Alors là, c'est la question plus politique et c'est peut-être la question que pose finalement Maudou. Les familles sur ce sujet aussi s'interrogent, notamment parce que les deux déclassifications de documents secret défense demandés ont pris beaucoup de temps. Ensuite, parce que tous les documents demandés par le juge n'ont pas été déclassifiés. Et surtout, ceux qui l'ont été parfois très partiellement, avec des passages entiers masqués. Alors, qu'y a-t-il à cacher? Est-ce que les services de renseignement ont suffisamment collaboré avec la justice française? Et plus globalement, est-ce qu'il y a des obstacles donc politiques à la manifestation de la vérité? C'est la question de Maudou, mais c'est aussi une question toujours d'actualité depuis 5 ans pour les proches des victimes, indépendamment du pouvoir en place en France.
Alors, effectivement, on peut se poser la question de savoir si la France a des choses à cacher. On peut peut-être aller même plus loin et se demander si le Mali, lui aussi, n'a pas des choses à cacher ou des personnes à protéger.
Oui, c'est une question aussi que les proches des victimes se posent, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que la justice française n'est pas aidée par la justice malienne depuis 5 ans. Une justice malienne qui, elle-même, souffre de manque de moyens. Les magistrats viennent d'ailleurs d'observer une grève de 3 mois pour réclamer plus de sécurité et de meilleurs salaires. Une justice malienne qui croule aussi, il faut le dire, sous les dossiers d'exaction et d'assassinat, même si l'assassinat de nos confrères a eu un retentissement particulier parce que c'était des journalistes, des Français. Il ne faut pas oublier tous ces civils maliens enlevés ou tués dans le nord du pays ces dernières années ou encore ces derniers mois.
Oui, merci beaucoup Marie-Pierre Offon. Je regardais en même temps les réactions qui nous arrivent sur la page Facebook de l'émission. Ousmane nous dit l'enquête sur la mort ignoble et barbare de Claude et Ghislaine piétine. Il faut que la vérité soit dite. Cela fait 5 ans, c'est trop, nous dit cet auditeur. Kalilou, toujours sur Facebook, nous dit « N'oublions pas que les journalistes sont nos yeux aux 4 coins du monde. Sans eux, nous serions dans le noir total. » Voilà pour quelques-unes des réactions qui nous arrivent. Maudou, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, je suis très satisfait.
Merci à vous et merci à Marie-Pierre Offon d'être venue vous répondre. 9h18 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Alexis.
Oui, bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Merci de nous appeler du Sénégal, vous êtes à Dakar. On va parler d'un tout autre sujet qui vous interpelle, qui vous intéresse. On va parler du Burundi.
Non, de Djibouti.
De Djibouti, autant pour moi. C'est moi, je suis un peu perturbé ce matin. Veuillez m'en excuser. Oui, vous avez raison. Sur Djibouti, pardon.
Voilà, le régime djiboutien poursuit sa vague d'arrestations arbitraires et de répression des opposants. J'ai appris aussi que les 5 dirigeants du parti d'opposition Modèle ont été arrêtés, puis mis en liberté provisoire. Quelles sont les raisons de ces arrestations?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que après trois jours de garde à vue, les 5 responsables du Modèle ont été remis en liberté provisoire. Bonjour Sébastien Nemeth.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI dans la sous-région. Alors, on va revenir sur ces arrestations. Et visiblement, Sébastien Nemeth, il semble que le souci soit en fait la création d'une école.
Voilà, Juan, une école interne au Modèle, c'est-à-dire une école politique inaugurée le 12 octobre, réservée aux militants. Les professeurs sont des membres du parti. Selon le Modèle, ce serait la première école du genre à Djibouti. Le but, en gros, c'est la formation, l'encadrement des membres du Modèle, en faire, si je pouvais résumer, de bons citoyens, des citoyens éclairés, disons. Alors, il n'y a pas encore eu de cours à cause de cette affaire, mais il y a un programme qui est prêt, avec des modules Quelques exemples, développement personnel, droits de l'homme, environnement, constitution djiboutienne, géopolitique mondiale, institutions internationales. Voilà, il y a au moins une dizaine de modules, Rouen.
Ouais. Pourquoi le modèle estime que son école est légale ?
Alors, pour le parti, c'est pas une école religieuse et c'est pas non plus une école privée. Le secrétaire général Kader Abdi Ibrahim dit que le parti n'est pas là, en fait, pour se substituer au système scolaire djiboutien traditionnel. Il ajoute aussi qu'il y a un flou juridique à Djibouti sur les écoles politiques au sein des partis. Il n'empêche le pouvoir n'entend pas du tout de cette oreille. Selon une source judiciaire, le modèle aurait créé une école sans autorisation préalable. Pour créer une école privée, il faut remplir des conditions posées par le ministère de l'Éducation, des conditions qui n'auraient pas été respectées selon la justice.
Oui, en tout cas, les cinq dirigeants ont été remis en liberté, comme le rappelait tout à l'heure notre auditeur.
Voilà, ils sont passés devant la chambre d'accusation de la cour d'appel il y a environ une semaine. Ils ont été laissés libres. La juge a dit qu'il n'y avait pas de risque de fuite. Ils sont quand même sous contrôle judiciaire, donc ils doivent en fait pointer au secrétariat du juge d'instruction le dernier jeudi de chaque mois. Et puis l'instruction, elle va se poursuivre. Donc pour l'école, les cours devaient commencer ce mois-ci. Maintenant, la question, c'est est-ce que le modèle va ouvrir son établissement alors que cinq dirigeants sont toujours visés par une enquête ? Le comité exécutif du parti doit se réunir pour discuter de la marche à suivre. Il va faire des propositions au Conseil national du modèle et c'est le Conseil national qui tranchera sur cette question.
Voilà. Affaire à suivre donc. Alexis, vous aviez une dernière question ?
Oui, quelles sont les différentes réactions suite à ces arrestations ?
Sébastien Lemaitre.
Alors pour le secrétaire général du modèle, lui-même arrêté, il dit qu'il y a une banalisation des interpellations d'opposants à Djibouti. Le pouvoir veut contraindre ses adversaires à quitter le pays. Donc ce serait une façon pour le pouvoir de mettre la pression sur le modèle pour effrayer en gros les militants, les opposants. La Ligue djiboutienne des droits humains s'est saisie du dossier. Elle a dit que cette école n'était pas une activité subversive. Elle a dénoncer un bâillement de l'opposition, des interpellations arbitraires, même propos à peu près de l'Observatoire djiboutien pour la promotion de la démocratie et des droits humains, qui se dit préoccupé par l'arbitraire qui touche les citoyens, il dénonce et condamne les violations des droits fondamentaux. Du côté de la majorité, évidemment, c'est une autre chanson, on ne joue pas avec l'instruction, c'est un domaine clé, le modèle est un parti légal, il est normal qu'il soit surveillé, explique un porte-parole de l'UMP, le parti présidentiel. Notre État est des garde-fous, ce mouvement ne peut pas organiser d'activités relevant du domaine public, explique le parti majoritaire, Juan.
À suivre. Merci beaucoup Sébastien Lemaitre d'avoir été en direct avec nous. On remercie évidemment Alexis qui nous écoute à Dakar et qui nous a contacté depuis la capitale sénégalaise, Dakar, où il est 8h23. 33 9 693 693 70. Il nous reste le temps encore de prendre quelques questions, les dernières de la semaine. Bonjour Junior.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez.
Et pensez pieds à vos deux collègues tombés au Mali, à Kidal.
Merci,
Julien Dupont et Claude Verland.
Merci de cette pensée, Junior. Vous êtes à Kinshasa, vous aviez des questions sur la présidente de l'Éthiopie.
Oui, effectivement, Juan Gomez. La semaine dernière, les parlementaires éthiopiens ont voté à l'unanimité la diplomate Saleh Wok à la tête du pays. Je voulais savoir, Juan Gomez, quel est le parcours de Madame Saleh Wok et quel rôle va-t-elle jouer dans le programme du Premier ministre ?
Oui, d'autant que c'est une première, hein, c'est vraiment la première femme présidente de l'Éthiopie et elle est aussi la seule femme présidente en exercice sur le continent africain. Vous avez raison de vous intéresser à son parcours puisqu'elle est peu connue du grand public. Bonjour René Lefort.
Bonjour.
Chercheur indépendant, spécialiste de l'Éthiopie, Saleh Wok Zewude, à 68 ans. Elle a un vrai parcours, très intéressant d'ailleurs. Elle est peu connue, je le disais, mais elle est douée pour la diplomatie.
Ah, elle est incontestablement douée pour la diplomatie. D'abord, elle a fait des études en France, à Montpellier, ce qui lui a permis donc d'apprendre et de pratiquer couramment le français. Ensuite, elle est rentrée dans la carrière diplomatique à la fin des années 80, dans un poste à l'ambassade du Sénégal, donc dans l'Afrique francophone. Peu à peu, elle a grimpé. Elle était ambassadrice à Paris au début des années 2000. Et ensuite, elle a rejoint le système des Nations Unies, où elle a eu des fonctions de plus en plus importantes. Donc, c'est vraiment une diplomate de carrière tout à fait confirmée.
Oui. Alors, Junior nous disait, mais quel sera son rôle auprès du Premier ministre? C'est vrai que quand on est président ou présidente d'Éthiopie, c'est plutôt une fonction honorifique. C'est véritablement le Premier ministre qui détient le pouvoir.
Comme on dit en France, le président de la République en Éthiopie, il inaugure les chrysanthèmes. Hein. C'est-à-dire que son pouvoir consiste en gros à nommer des ambassadeurs sur proposition du Premier ministre, à recevoir les lettres de créance des ambassadeurs, à signer les lois qui sont adoptées, mais de toute façon, si le président ne les signe pas au bout de 15 jours, elles sont considérées comme définitivement adoptées. Donc, le président en Éthiopie n'a absolument aucun rôle politique consistant.
Ouais. Malgré tout, cette désignation est quand même perçue comme une véritable avancée. Junior, vous avez une autre question?
Absolument, Juan. Depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, l'inconstance à une politique d'ouverture, peut-on attendre à ce que les femmes puissent être présentes dans la scène politique?
Alors, de plus en plus de femmes sur la scène politique, René Lefort, vous y croyez, vous, à ce scénario?
Ah ben c'est déjà le cas, hein, puisque la moitié des membres de son cabinet, 20 membres de son cabinet, la moitié sont des femmes. Ça c'est déjà quelque chose de tout à fait remarquable.
Et notamment à des postes clés, la défense et la paix par exemple.
Notamment à des postes clés, la défense et la paix. Et hier, le Parlement a élu comme président de la Cour suprême une femme, également, avec comme vice-président un homme. Donc il y a vraiment une ascension fulgurante des femmes dans les sphères du pouvoir éthiopien, ça c'est sûr et certain.
Ouais. C'est-à-dire que le contexte est propice aujourd'hui à l'ouverture de la sphère politique aux femmes. Que va-t-elle faire Saleh Work Zewde, notamment concernant le droit des femmes en Éthiopie? Est-ce qu'elle a un programme? Est-ce qu'elle s'est prononcée sur cette question?
Non, à ma connaissance, non. Non. À ma connaissance, elle ne s'est pas prononcée, mais je peux me tromper. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette nomination d'une vague de femmes a fait beaucoup de bruit dans le pays, a été, d'après les réseaux sociaux et la presse, très très bien accueillie. Ceci dit, moi, je me demande comment est-ce que les campagnes où vivent 80% des Éthiopiens réagiraient à cette nomination. Je serais curieux de le savoir. Est-ce que le sens de la modernité aura suffisamment gagné ses campagnes pour dire, ah ben c'est bien, voilà des femmes qui sont promues, on se rapproche de l'égalité homme-femme, ou est-ce que la vieille tradition qui veut que les femmes n'occupent pas de fonction de responsabilité politique ou sociale reste toujours prégnante? Ça, je ne le sais pas, il faudra aller faire une enquête dans les campagnes pour le savoir.
Merci beaucoup René Lefort d'avoir été avec nous, spécialiste de l'Éthiopie. Bonne journée Junior. Bonne fin de semaine à Kinshasa. J'en profite pour saluer Yves-Laurent Goma, notre correspondant au Gabon. Il était en ligne avec nous. On avait prévu de le prendre ce matin dans l'émission pour répondre à quelques questions d'auditeurs après cette attaque informatique visant de nombreux sites institutionnels au Gabon. On aura évidemment lundi dans l'émission Yves-Laurent Goma et notre auditeur Lionel qui souhaitait nous interroger sur cette actualité. Restez avec nous dans un instant. Nous allons retrouver tout le service africain de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et nous reviendrons tout de suite après pour vous donner la parole. On parlera de la protection des journalistes, de leur sécurité. Vous semble-t-elle garantie cette sécurité dans votre pays? La liberté d'informer est-elle respectée? Voilà des questions que je vous pose ce matin en ce 2 novembre, journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Une journée en mémoire de nos deux collègues, nos deux amis, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués il y a tout juste 5 ans au nord du Mali. Vous nous appelez 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.